Alors, donc nous recevons Alain Denot. Alors Alain Denot qui est philosophe. Alors si je ne me trompe, une thèse en 2004 à Paris 7 sous la direction de Jacques Rancière. Thèse de philosophie.
Paris 8.
Oui. Paris 8, c'est ça. Paris 8. Thèse de philosophie qui portait sur l'économie déjà, les questions d'argent chez Simmel, sociologue allemand. Et en fait, on pourrait dire que vous n'êtes pas un philosophe qui a les mains propres parce qu'il n'a pas de main. Vous êtes un philosophe qui, au contraire, met la main dans le cambouis, dans le pétrole même, on pourrait dire. Puisque vous êtes fait une spécialité, d'une certaine manière, à être un observateur à la fois très informé et critique de l'activité des firmes c'est même pas multinational, c'est transnational, puisque multinational supposerait qu'on soit limité aux espaces nationaux, mais évidemment vous montrez qu'on est vraiment dans le transnational. Et vous publiez dans la même année deux livres, en fait, un gros livre qui s'appelle « De quoi Total est-elle la somme ?», donc qui est un gros livre d'enquête extrêmement documenté sur Total. Et puis vous avez... éprouver le besoin, en fait, de faire un livre plus petit en nombre de pages, un livre d'intervention, on pourrait dire, qui est celui dont on va parler ce soir, qui s'appelle « Le totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir ». Alors, c'est petit en nombre de pages, ça fait une centaine de pages, mais c'est très dense, je vous rassure, vous pouvez passer un certain temps, en fait, à lire le livre. Ça se lit pas... je crois que le temps d'un Paris-Bordeaux en TGV suffirait pas, peut-être. Voilà. Donc, ce livre, il a un titre complètement énigmatique. Enfin, en tout cas, pour moi, le totalitarisme pervers. Énigmatique au sens où il associe une problématique, disons, de philosophie ou de science politique, qui est la notion de totalitarisme, avec une notion psychanalytique ou psychiatrique qui est celle de la perversion. Et d'ailleurs, vous revenez souvent sur cette mélange des genres en termes de, notamment, psychotique, la névrose, enfin, voilà. Donc, on y reviendra. Alors, ce livre, je vais vous laisser, évidemment, dire ce qu'il y a dedans, mais juste pour introduire, grosso modo, enfin, moi, je l'ai lu comme étant constitué de deux parties relativement différentes, peut-être contradictoires, d'ailleurs. Une première partie qui, au fond, est la description d'un acteur puissant de l'économie contemporaine. Cet acteur puissant, c'est le groupe Total. Et au fond, de manière très documentée, encore une fois, vous faites ce qu'on pourrait appeler une sociologie des formes d'exercice du pouvoir de ce type d'acteur économique. Et puis, il y a une deuxième partie du livre qui, au fond, propose une thèse interprétative des significations, alors à la fois en termes de philosophie politique, de cette forme d'exercice du pouvoir dans le monde contemporain. Alors peut-être on va passer un peu de temps d'abord sur la première partie, parce que, ne serait-ce que, enfin, personnellement, j'ai appris plein de trucs sur Total. Et je pense que c'est important pour inscrire, disons, la deuxième partie de votre ouvrage, qui est une proposition, disons théorique, de l'inscrire dans la matérialité, d'une certaine manière, de l'enquête que vous avez faite. Sinon, on pourrait dire, bon, bah, chacun a ses opinions, a ses idées, etc. Tandis que là, ce qui me semble très intéressant, c'est comment il est possible d'articuler, enfin, les formes d'articulation, en tout cas, de cette enquête avec les propositions philosophiques que vous faites, enfin, de philosophie politique. Alors, ça commence, en fait, par une phrase extraordinaire, tout un programme que vous allez dérouler, et j'aimerais bien que vous y reveniez, parce qu'on apprend énormément de choses. Donc, je lis c'est l'incipit, en fait, c'est la phrase du premier chapitre qui s'appelle « Total ». On erre, du verbe errer, en définissant Total comme une société pétrolière française. Tous les termes de cette assertion portent à confusion. Une société pétrolière française. Et en fait, vous commencez votre livre en reprenant chacun de ces termes pour, d'une certaine manière, les déplier et montrer ce qu'il recouvre aujourd'hui.
Oui, en fait, effectivement, plutôt que de faire, un livre à charge sur Total, où il se serait agi sur un mode, disons, un peu spontanément militant, là, de quelque sorte d'essayer de dénoncer une firme pour ce qu'on lui attribue, pour ce qu'elle fait, donc, j'ai plutôt, me semble-t-il, tenté de faire un pas de recul, essayer de comprendre qui nous parle et qu'est-ce que nous dit l'instance qui nous parle. Qui nous parle beaucoup d'ailleurs, qui parle énormément et qui est très visible et qui est même incontournable Bon. Et d'abord, prendre à rebours un certain nombre d'expressions qui sont usitées pour l'aborder, que ce soit à la radio, dans les journaux, dans la vie sociale en général. Et si je me permets une parenthèse sur mon travail, en général, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait. Et d'où la rencontre, mais qui n'est pas si nouvelle, hein, je pense que Marx le faisait, la rencontre entre des concepts issus du corpus philosophique et des objets qui sont ceux de l'univers, disons, économique, pour aller vite. Cela m'a d'abord intéressé sur l'enjeu des paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'il m'a semblé que la question des paradis fiscaux était tellement grave, était tellement vaste, était tellement considérable, qu'elle affectait jusqu'à la sémantique des mots qu'on est habitué d'utiliser pour en parler. Et donc, je me suis intéressé à un mouvement inverse, c'est-à-dire que plutôt que de recourir à des mots tels que « état »,« souveraineté »,« loi »,« frontière », »,« crime », finance, et ainsi de suite, jusqu'à la nomenclature des structures qu'on retrouve dans les paradis fiscaux, hein, des trusts, des sociétés exemptées, des filiales, des fondations caritatives, des investissements directs à l'étranger. J'ai voulu en quelque sorte revoir tout ce vocabulaire, surtout pour essayer de traquer ce qu'il masque. Bon. Et il en va de même quant à une firme comme Total. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment plutôt les multinationales en tant que pouvoir aujourd'hui, bien avant que d'étudier Total. Total est un cas d'école, parce qu'il m'a semblé plus intéressant de passer par un cas pour, au fond, appréhender l'ensemble que de se jeter comme ça, à corps perdu, dans un univers descriptif qui aurait considéré autant Monsanto que Microsoft, que Amazon, que Boeing, que bon. Un cas suffisait pour montrer au fond en quoi sont problématiques les multinationales. Et effectivement, dire de Total un peu rapidement comme ça au Café du Commerce ou dans les médias qu'il s'agit d'une entreprise pétrolière française, c'est absolument fautif. Les prémices qu'on engage en utilisant les quatre termes de cette définition sommaire portent à confusion. D'abord, Total, ce n'est pas une firme. La librairie Mola en est peut-être une et une seule. Une pizzeria familiale du coin en est peut-être une seule. L'épicier du coin est une seule firme. Mais Total, c'est 934 sociétés dans 130 pays, et c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Et pour ma part, je suis pour l'utilisation, en ce sens, de l'expression multinationale, parce que précisément, la force de la firme, c'est d'être fragmentée dans plusieurs États et de pouvoir peser de tout son poids dans tous les États où on trouve des filiales, sans pour autant que quelque législation que ce soit où se trouvent créées ces différentes filiales soit capable de légiférer à l'échelle sur laquelle la firme évolue. C'est-à-dire que tandis que vous avez une firme qui évolue à l'échelle planétaire, qui est dans 130 pays, qui a 934 sociétés consolidées sous son contrôle, mais qu'elle n'est elle-même rien, parce que Total comme entité n'est rien en droit. Un groupe multinational, un empire multinational n'est pas un sujet de droit et ne relève d'aucun État en propre. La seule, au fond, réalité juridique du groupe, la seule réalité juridique d'une multinationale, c'est sur un mode subdivisé et fragmenté et rhizomatique, l'ensemble de ces structures dans différents pays. Donc, la filiale iranienne de Total relève du droit de l'État iranien. La filiale des Bermudes relève de la législation bermudienne. Même chose pour le Canada, le Myanmar, le Royaume-Uni, le Brésil. Et donc, on a cette espèce de pieuvre qui, en droit, n'existe que sous la forme de tentacules. Et le droit commercial, tel qu'il est pensé à l'échelle internationale, rend les États, en quelque sorte, aveugles à la pieuvre. Chaque État fait comme si le tentacule qui se retrouve chez lui est autonome et ne dépend d'aucun cerveau. Ou pour le dire autrement, c'est comme si lorsqu'il s'agissait de voir Total en droit, puisqu'on ne voit les composantes de Total pays par pays sur un mode exclusif, c'est comme si on était seulement capable de regarder des pixels, mais jamais une image. Il y a des arbres, il n'y a jamais une forêt. Il y a une sorte de fragmentation en droit de la réalité du groupe, même si, de fait, le groupe existe, mais il n'existe que sur un plan commercial, il n'existe que sur un plan actionnarial. Et c'est vrai pour Total, mais c'est vrai aussi pour toute multinationale. C'est vrai pour Coca-Cola, c'est vrai pour tous les groupes auxquels on peut penser spontanément quand on aborde la question des multinationales, c'est-à-dire des entités qui existent en tant qu'elles sont fragmentées dans plusieurs États, en tant qu'elles peuvent peser de tout leur poids dans chaque État, dire « je suis Total, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai un volume d'activité qui excède les 200 milliards d'euros par année, mes bénéfices aussi entre 8 et 14 milliards d'euros, donc c'est de tout mon poids que je pèse lorsque je suis en Iran, lorsque je suis en Irak, lorsque je suis en Russie, lorsque je suis en Argentine, lorsque je suis aux États-Unis, mais la législation à laquelle je fais face comme multinationale n'a de prérogative que sur la petite structure que j'ai créée chez elle. » Bon, ça c'est un premier point. Donc une, c'est la première erreur qu'on peut faire. La deuxième erreur porte sur, évidemment, l'épithète française. C'est pas tout à fait faux, mais ce n'est vrai qu'à hauteur de 28%. Seuls 28% des actions totales sont détenues par des porteurs français, qui plus est privés. Et la réalité devient encore plus cruelle lorsqu'on considère la part d'avoir français au titre de l'attribution des actions, lorsqu'il s'agit d'analyser la part d'actions détenues par les investisseurs institutionnels, qui sont en fait les principaux actionnaires capables d'infléchir le cours des choses, d'influencer la façon dont l'entreprise évolue. Et là, on tombe à 16%. Seuls 16% des actions détenues par des investisseurs institutionnels, des fonds de retraite, des grandes institutions financières, ainsi de suite, sont français. Et du point de vue des États, de l'État, c'est fini. Je veux dire, depuis 1998, à la suite de vagues de privatisation en cascade, là, amorcées par le gouvernement Chirac en 1986, continuées par celui de Balladur à partir de 1993, et conclues, mais il restait des miettes, là, par le gouvernement Jospin en 1998, l'État, pour ainsi dire, sauf à la marge, n'a plus de part dans Total. Et n'est plus du tout un actionnaire de poids, comme ça a pu être le cas dans la Compagnie française des pétroles ou dans ELF, c'est-à-dire deux importantes composantes historiques de l'actuel Total. Les autorités publiques qataries ou chinoises aujourd'hui ont plus de parts dans Total que la République française. Donc, ce n'est pas une entité française. Et on le voit très bien par, j'aurais envie de dire, par aujourd'hui, je dirais par le virage à l'anglais qu'a emprunté Total, mais je veux dire qu'en France, malheureusement, ce n'est pas vraiment une exception.
Le virage à l'anglais, c'est une expression canadienne.
Le virage à l'anglais, c'est-à-dire un slogan unilingue anglais, une communication axée sur l'anglais et une adresse qui, au fond, destinée à un public, mais pour parler d'actionnaires, je dirais plutôt une oligarchie, quoi, de grands actionnaires qui pensent en anglais, quoi. Donc c'est une firme aujourd'hui qui pense en anglais, quoi, par ailleurs, prend des décisions stratégiques qui ne considèrent pas du tout la France comme étant, au fond, un lieu privilégié. Quand on en est à passer de 8 à 5 raffineries en quelques années, à réduire le volume d'activité de chacune d'entre elles, à les transformer en petites niches pour des petits secteurs vraiment marginaux, tout en ouvrant en Arabie Saoudite une grande raffinerie gigantesque qui va pouvoir opérer dans un cadre social et fiscal pas mal plus avantageux que celui de la France, sans parler de la Corée du Sud, sans parler de l'Iran, sans parler d'autres pays. On comprend que l'approche de Total ne concerne pas des enjeux français, mais simplement les enjeux relevant de la firme elle-même. Et au fond, la firme est comme un sujet double. La firme, c'est d'abord une entité destinée à servir un actionnariat qui est apatride. Les actionnaires de Total sont des fonds d'investissement américains, principalement britanniques. Il y a quelques Français qui ont des parts, j'en parlais, des Canadiens, la famille Desmarais, par exemple, des Belges, la famille Frère, qui sont des importants actionnaires. On a aussi des fonds situés dans les paradis fiscaux, on ne sait pas exactement à qui ils appartiennent. Mais au fond, c'est un actionnariat apatride, au fond. Un actionnariat qui est en tout cas, qui n'a pas de sujet. Et s'il y a des actionnaires importants, ceux-là ont à peine plus de 5% des parts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire de référence. Il n'y a pas d'actionnaire principal. Il y a une myriade d'actionnaires qu'on cherche à satisfaire. Donc ça, c'est une première subjectivité. Et Total se vante, par exemple, de verser année après année, dit-on, depuis 1982. Mais il faudrait voir si on parle de la Compagnie française des pétroles, de ELF ou de toutes les composantes historiques qui ont fusionné au tournant du siècle. En tout cas, il se vante depuis 1982 de verser des dividendes à ses actionnaires. Donc là, il y a un premier sujet Et pourquoi Total existe? Pour satisfaire cette soif de dividendes des actionnaires, notamment. Deuxièmement, Total est sa propre subjectivité, puisqu'il n'y a pas d'actionnaire de référence, puisque, au fond, aucun sujet particulier ne contrôle, j'aurais envie de dire, l'hydre, eh bien, elle devient sa propre cause. Et au fond, Total n'existe pas pour la France. Total, contrairement à sa raison d'être historique, hein, la Compagnie française des pétroles a été créée en 1924 pour favoriser l'approvisionnement de la République française dans l'optique d'un conflit armé. Bon, c'était les enjeux de l'époque. Aujourd'hui, Total ne joue aucun rôle géostratégique quant à la France. Elle ne satisfait que ses propres intérêts. Elle est sa propre raison d'être. Bon, pour ne pas être trop long sur la question de l'épithète pétrolière, alors voilà, j'irai vite en disant simplement que...
C'est peut-être plus compliqué, d'ailleurs.
Hmm?
Qui est peut-être le plus compliqué.
Oui, c'est le plus compliqué. En même temps, on peut, en deux coups de cuillère à peau, simplement dire que ce n'est pas une pétrolière, mais une énergéticienne désormais. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on le sait, on commet soi-même, j'aurais envie de dire, le forfait, hein, que les ressources pétrolières s'épuisent. Et qu'est-ce que fait Total? Elle n'attend pas les bras croisés qu'on ait épuisé la dernière goutte de pétrole de chaque gisement que l'on détient. Évidemment, on fait de la crise... Hein, qui surviendra au moment où il n'y aura plus de pétrole facilement accessible, le marché de demain. Donc, tout en ayant des billes dans le secteur pétrolier, c'est-à-dire des gisements qui repoussent toujours plus loin, d'une manière aventurière et même redoutable, la limite de l'extractivisme, hein, avec des projets d'exploitation en mer hasardeux, l'exploitation des sables bitumineux au Canada, qui est une pure cochonnerie, je veux dire, qui est plus polluante encore que le charbon, sans parler d'autres aventures dans le domaine de la pétrochimie ou même de la construction automobile qu'on peut pressentir. Total a intensifié considérablement ses investissements dans les secteurs de l'après-pétrole, hein, dans les nouvelles énergies. Qu'est-ce que c'est? Le gaz, essentiellement, mais le gaz pour faire de l'électricité, hein, pour alimenter en électricité notamment les principales villes de l'Afrique, grâce au travail de lobbyistes d'un ancien ministre de l'écologie, Jean-Louis Bourleau, mais aussi les éoliennes, le solaire. Hein, Total est parmi les premières sociétés dans le domaine de l'énergie solaire au monde, les agrocarburants, le gaz carburant, le stockage d'énergie, les batteries de pointe, les carburants adaptés aux navires, et quoi encore? On est même lancé dans la spéculation sur les biens énergétiques, sur le mode du courtage à risque, hein, un peu comme Enron pouvait faire, sans parler d'un investissement colossal dans des filières technologiques comme l'Internet des objets ou encore même les logiciels sur la logistique du fret ou même des sites comme le covoiturage. Donc, au fond, la firme est partout. Et tout ça me fait dire qu'il ne s'agit pas d'une entreprise ou d'une société, parce qu'une entreprise suppose qu'on soit engagé dans une filière particulière, qu'on soit en quelque sorte circonscrit dans une activité. Une société suppose qu'on soit un certain nombre d'associés identifiables. Je ne dis pas que ce n'est plus une entreprise, je ne dis pas que ce n'est plus une société, mais ce serait réducteur que de ne voir en elle que cela. Il s'agit bien plutôt désormais d'un pouvoir qui se présente sur un mode nouveau, eu égard aux catégories habituelles, hein, visant à penser le pouvoir et à le décrire. C'est une souveraineté qu'on a face à soi, une souveraineté d'un genre nouveau. Et cette souveraineté-là exerce son autorité sur un mode nouveau qu'il faut, je pense, appréhender. Il faut se doter des termes qui permettent de comprendre comment évolue ce nouveau pouvoir. Ce nouveau pouvoir est reçu dans... un rapport bilatéral par Vladimir Poutine. Et on a là deux chefs de deux autorités souveraines qui, en quelque sorte, discutent, qui, en quelque sorte, négocient en tant qu'autorité. Et on a Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui est reçu avec les égards qui sont réservés normalement à un chef d'État, hein, avec un communiqué de presse qui, je ne sais pas, je vais le trouver rapidement, qui dit, qui cite Patrick Poignet, un communiqué de presse officiel du Kremlin au terme de la réunion qui a eu lieu avec tout le décorum d'une rencontre entre chefs d'État et qui finit par une citation de Patrick Poignet dans le communiqué de presse officiel du Kremlin disant « Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. » Donc on a déjà une sorte de position de force quoi, de la part de Total, mais Total aussi signe l'accord de la COP21. C'est une entité qui est capable de recourir aux mécanismes de règlement différents pour poursuivre des États qui ne respectent pas, selon ses dires, un certain nombre de clauses contractuelles, quand il ne s'agit pas tout simplement d'agir comme une autorité bis, d'investir dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour soutenir l'industrie locale là-bas à la manière d'un gouvernement, ou de financer la restauration d'une œuvre au Louvre, ou de financer telle association, loi 1901, ou pour financer un tournoi de football, ou quoi encore. On la trouve partout et elle se présente comme un pouvoir et elle sème ainsi, je dirais, un lien de dépendance à des pécules hein, pour elle qui génèrent beaucoup d'autocensure. Et je ne parle pas encore non seulement du lobbying, mais du phénomène des portes tournantes et au fond de l'assimilation des structures étatiques à ses intérêts.
Alors, vous avez fait une allusion à l'origine historique, en fait, de Total. Donc, ça renvoie à cette phrase qui alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est eux qui le dites. Au fond, Total ne fait pas de politique, mais elle fait de la géopolitique. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez remettre cette phrase dans la perspective historique, de savoir, au fond, donc vous l'avez dit, création en 1924. Alors, dans une problématique, au fond, de choc des impérialismes, il s'agissait pour la France, comme État-nation, de se garantir des capacités, au fond, de stratégiques, d'une certaine manière. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur, au fond, ce qui est devenu la géopolitique de Total, de l'époque où elle était, au fond, un instrument, disons, régalien de l'État français, à, comme vous l'avez dit, sans doute, une forme d'intervention directe sur les questions géopolitiques rendu possible précisément par son poids économique, d'une certaine manière.
Ah, c'est tout à fait intéressant de faire cette histoire. Hein. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, on comprend quel est le dessein des multinationales et je dirais leur raison d'être. Hein. C'est-à-dire contrôler l'accès à des richesses qu'on rendra indispensables si elles ne le sont pas déjà. Alors que ces richesses pourraient, dans un univers libéral, celui dont on parle tant en théorie, faire l'objet d'exploitations multiples et réellement concurrentielles. Hein? C'est-à-dire que le pétrole, qui est une richesse facile à extraire, facile à transporter, facile à stocker, aurait pu faire l'objet d'exploitation signée par de multiples entités, des PME, des coopératives, des petites sociétés d'État. Et on aurait eu des petites structures incapables de s'imposer comme des pouvoirs auprès des puissances publiques, et donc des puissances publiques capables de légiférer sur ce secteur-là en disant « on ne va quand même pas tout siphonner en 100 ans, hein, ça serait quand même totalement fou et irresponsable ». Bon. Soyons civilisés. Mais on n'a pas pu se trouver dans un contexte comme celui-là parce que les multinationales se sont interposées entre cette richesse et quiconque en avait besoin, au point de faire chanter les législations. La Standard Oil, par exemple, exemplairement, là, qui vend pendant la Deuxième Guerre mondiale des biens pétroliers autant aux Alliés qu'aux Allemands. Bon, comment tout ça commence? Je vais faire une histoire courte. Là, je vais essayer d'être, comment dire, intelligible. Avant la Première Guerre mondiale, déjà Winston Churchill, qui est le ministre responsable de la marine britannique, convertit sa flotte au mazout. Donc déjà, le Royaume-Uni comprend qu'il y a un gros problème stratégique là parce qu'on n'a pas encore découvert de pétrole au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que fait Churchill? Il fait en sorte que des deniers publics soient investis dans la British Petroleum, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais qui va devenir, au fond, à une certaine époque, même une société d'État, hein, une société en tout cas contrôlée par l'État. Mais le seul souci qu'a Churchill, c'est l'approvisionnement, s'assurer qu'il y ait un approvisionnement. Qu'est-ce que fait la BP avec la Deutsche Bank et avec Shell? Elle crée ce qui sera la première esquisse d'un cartel au Proche-Orient pour assurer un approvisionnement. La Première Guerre mondiale éclate. Donc, ce cartel-là ne se met pas vraiment en place. On n'en a que le dessin. Au terme de la Première Guerre mondiale, les Français ont eu chaud parce qu'on aurait pu perdre Verdun, étant donné la crise liée à l'approvisionnement. La Standard Oil, notamment, a fait chanter la République au moment de la Première Guerre mondiale, quand il s'agissait d'approvisionner en pétrole l'armée au front. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On imite les Britanniques. D'ailleurs, pendant 50 ans, les Français vont ne faire que ça, imiter les Britanniques. On crée, puisqu'on a gagné la guerre, on prend aux Allemands la part qui était la leur dans ce consortium en devenir, et on crée la Compagnie française des pétroles, l'ancêtre de Total, pour faire comme les Britanniques, c'est-à-dire avoir une société qui approvisionne la France dans la perspective d'un conflit à venir potentiel. On ne s'est pas trompé à cet égard. Et les Américaines s'ajoutent, et on a donc, dans l'ex-Empire ottoman, un cartel qui se développe sur un mode absolument autonome, hein, constitué d'Américaines menées par la Standard Oil, qui est aujourd'hui Exxon Mobil, par BP, Shell et Total. Et ce sont les principales sociétés qui, au fond, régissent les lois en ce qui concerne l'exploitation pétrolière et la distribution des biens. Et pour ce faire, pour favoriser la chose, le Royaume britannique démantèle l'Empire ottoman et crée ce que Nicolas Sarkis va appeler des enveloppes juridiques, c'est-à-dire des États destinés strictement à favoriser et à encadrer les investissements pétroliers de ces grandes firmes en leur assurant une sécurité juridique. Donc, ce ne sont plus les États qui encadrent les sociétés pétrolières, ce sont les sociétés pétrolières qui se font offrir des États sur mesure, et l'Irak n'a pas d'autre fondement historique que de favoriser l'exploitation pétrolière. Il ira de même du Qatar et d'autres États ensuite. Et donc, on démantèle cet empire ottoman et on laisse les entreprises évoluer sur un mode oligopolistique qui n'aurait même pas été envisageable selon les lois américaines, françaises ou britanniques dans aucun des États parrainant cette évolution. Maintenant, les chefs d'État n'ont à l'époque en tête que la question de l'approvisionnement. C'est une sorte d'obsession. Et on perd de vue tout le reste. Et on ne se rend pas compte, même s'il y avait des textes déjà à l'époque qui mettaient en garde les dirigeants contre ce genre de dérive, on perd de vue qu'on est en train de créer des Frankenstein, c'est-à-dire des créatures qui vont devenir très rapidement beaucoup plus puissantes que leurs créateurs. Et on a là ces prototypes de multinationales qui vont ensuite servir de modèle dans d'autres secteurs d'activité, l'agroalimentaire, l'import-export, les objets de consommation courante, jusqu'à l'informatique aujourd'hui. Donc c'est la première fois, bien après le secteur bancaire qui est à part, là, c'est la première fois que dans le domaine industriel, on a là des multinationales, c'est-à-dire des États qui ont pour seule visée, de se reconnaître entre elles comme faisant partie d'un groupe sélect et d'étendre complètement leur souveraineté, au fond, privée, sur toutes les régions du monde où il pourrait y avoir sources pétrolières de façon à contrôler la filière. Et donc, cela a donné lieu à cette évolution, un accord as is, un autre accord dit de la ligne rouge, qui sont des accords, des espèces de traités de Westphalie entre sociétés pétrolières pour contrôler le marché, jusqu'à ce que la France, après la Deuxième Guerre mondiale, en ait un petit peu assez d'être complètement enfermée dans ce cartel dirigé essentiellement par des anglophones, et que de Gaulle ne trouve pas de son goût que la Compagnie française des pétroles ne soit détenue par l'État qu'à hauteur de 34%, la différence étant souvent détenue par les concurrentes, et que la Compagnie française des pétroles soit un petit peu comme Total aujourd'hui, c'est-à-dire complètement à la solde d'un capital, des trusts, comme on disait à l'époque, d'un capital étranger. Alors, on crée à côté, ce qu'on fait souvent en France, on crée à côté de la Compagnie française des pétroles assez vite ELF. Et ELF, elle, sera contrôlée par Paris, sera contrôlée par les autorités publiques. Et qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On imite les Britanniques, c'est-à-dire qu'on démantèle l'Empire africain comme on a démantelé l'Empire ottoman pour se donner, à son tour, des enveloppes juridiques à l'image de l'Irak, mais en Afrique, aux fins des intérêts français, c'est-à-dire principalement le Gabon et le Congo-Brazzaville. Et là, on se donne deux enveloppes juridiques qui sont strictement destinées à permettre à ELF d'approvisionner la France, mais cette fois en contrôlant le véhicule, ce qui donnera lieu à une sorte de politique étrangère bis, à des services secrets bis, pratiquement à des armées bis, parfois, au service moins de la République, que des partis politiques qui veulent accéder au pouvoir au sein de cette République.
Alors, vous l'avez dit, au fond, ce que vous décrivez, c'est finalement la rationalité capitaliste. Enfin, l'entreprise capitaliste est définie précisément par les mécanismes, les ressorts qui l'animent. C'est ce que Max Weber appelait la rationalité instrumentale, c'est-à-dire qu'il n'a d'autre fin en réalité que le déploiement de sa propre logique interne. Et puis, ce que vous venez de dire aussi, c'est que, finalement, les entreprises capitalistes, elles détestent le marché. puisque là, tendanciellement, c'est les formations d'oligopole, hein, ça consiste à façonner des marchés dans le sens de ses intérêts. Simplement, ce qui existe, c'est les marchés, malgré tout. Donc là, vous faites aussi des développements sur la question du droit, puisqu'un marché ne peut pas exister sans droit. Et donc là, est-ce que vous pourriez en dire plus, notamment sur la manière dont ces entreprises capitalistes doivent composer, d'une certaine manière, avec l'existence des marchés? Ces marchés sont régulés par le droit, les droits nationaux, mais aussi, de plus en plus, le droit international. Et donc comment font-elles, précisément, pour défendre cette rationalité instrumentale qui leur est propre, dans un contexte où, malgré tout, c'est la forme marché qui, pour le moment, en tout cas, continue de subsister?
C'est là où elles nous disent, elles, à répétition, hein, qu'elles font de la géopolitique et non de la politique. C'est-à-dire que là, on rentre dans un univers psychique, hein, vraiment, qui est celui de ce pouvoir-là, qui est assez particulier. La vie psychique n'étant pas indépendante des formes de droit, hein, en tant qu'elle régisse les comportements et qu'elle agisse comme référent autorisé. Par où commencer, là aussi? Déjà, peut-être, je ne sais pas si j'anticipe vos questions en parlant déjà du nom Total. Pourquoi Total s'appelle Total, déjà? Ça, on peut entrer par cette porte-là. Total, il faut le faire, non? Moi, je dis souvent que si Total n'existait pas, si Total n'eût pas existé, et qu'un romancier aujourd'hui proposerait à un éditeur un roman dans lequel une grande firme énergéticienne s'appelle Total, l'éditeur dirait, ben là, t'exagères, aucune firme qui va s'appeler comme ça, Total, c'est beaucoup trop gros. Total s'appelle Total 2 ans seulement après qu'Hannah Arendt ait fait paraître les origines du totalitarisme. Donc c'est quand même un mot sensible, et qui témoigne au fond des complexes qu'ont les Français à l'époque face aux Américaines et aux Britanniques. En se faisant, au fond, à l'époque, plus grosse que le bœuf. En gros, Total, ce n'est pas une petite firme française. La compagnie française des pétroles, en fait, a baptisé ses enseignes parce qu'elle est de plus en plus active dans la distribution. Elle vend des produits comme des lubrifiants, ainsi de suite. Elle a elle s'intéresse aux services au détail. Donc, elle ne va pas s'appeler la compagnie française des pétroles ou strictement la CFP. On n'est plus pas encore à l'époque des acronymes. Donc, on cherche un nom et on dit, voilà, on s'appelait Total, quoi. Bon, ça commence comme ça dans les années 50. Pourquoi? Et là, c'est pas juste de la spéculation de ma part. Je suis allé voir les textes, hein, non pas les archives elles-mêmes, mais des références aux archives qui sont citées ici ou là. Et peut-être on explique qu'à l'époque, il fallait montrer qu'on n'était pas simplement une petite Française dans son coin, mais nous aussi, on faisait partie du grand cartel des pétrolières. Et c'est l'époque, on s'en souvient, dans cette moitié du 20e siècle, des sept sœurs. Les sept sœurs, c'est Texaco, Gulf, Shell, BP, Exxon, Mobil et une autre, Chevron. Bon, ça, c'est les sept grandes pétrolières qui font la loi, quoi. Et dans ses propres textes, Total, enfin, la Compagnie française des pétroles, se présente comme la huitième des sept sœurs. Elle rêve de faire partie des grandes, quoi. Et donc, l'idée, c'est faire partie des grandes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être Total, ça aussi, tant sur un mode horizontal que vertical. C'est-à-dire, sur un plan vertical, ben, c'est-à-dire s'intéresser à la prospection, à l'exploitation, au transport, au raffinage, à la distribution, à la commercialisation, puis même à l'offshoreisation. Bon, on est vraiment partout. Puis on est en cartel. Donc on se spécialise dans la participation à des cartels, ce qui nous rend toujours plus grande qu'on ne l'est soi-même. Hein. Et pour ça, l'intégration de la Compagnie française des pétroles dans le cartel du Moyen-Orient en 1924 est une aubaine, parce que la France était rien, hein, dans le secteur pétrolier. On était allé un petit peu s'amuser en Roumanie, mais on n'avait pas fait grand-chose par rapport aux autres entités. Et tout d'un coup, on était propulsé chez les grandes, mais sans grands moyens. Et d'ailleurs, la Compagnie française des pétroles a été longtemps raillée par les Britanniques et les Américaines. La CFP était présentée par les anglophones comme étant la société « can't find petroleum », quoi. C'est-à-dire incapable de trouver du pétrole, quoi. Mais l'idée, ça a été de se faire toujours plus grande, toujours plus puissante, et d'exister sur le plan de la totalité économique, sur la totalité au sens où on est un pouvoir qui est mu par le fantasme de peser sur tout et d'exister comme pouvoir. Et on est face à une société qui aujourd'hui, à l'instar d'ExxonMobil, hein, qui a quand même eu son PDG comme ministre des Affaires étrangères aux États-Unis là, aujourd'hui, qui est comme Shell, comme BP, comme Microsoft ou Monsanto dans d'autres secteurs, qui se présente comme une autorité transcendante la vie politique, pour deux raisons rapides. D'abord, je l'ai longtemps esquissé, j'y reviens pas, c'est sur le fait d'exister sur une échelle qui échappe au pouvoir de tout législation, mais aussi de toute juridiction, c'est-à-dire de tout appareil judiciaire. On existe sur une échelle qui fait qu'on peut toujours inscrire ce que l'on a pour dessein de faire là où cela devient légal, et donc toujours échapper à la loi telle qu'elle existe sur un mode hétérogène dans le monde. Et d'autre part, il y a ce pouvoir, cette force de frappe qu'on a sur un plan financier, sur un plan politique, sur le plan de la corruption, sur le plan de l'influence, sur le plan des menaces, sur le plan du chantage, qui fait qu'on est capable, à une échelle mondiale, d'établir les règles du jeu. Quand Patrick Pouyanné, ou avant lui Christophe de Margerie, disait « nous, on ne fait pas de politique, on fait de la géopolitique », en gros, ce qu'on sous-entend, et c'est assez vite, presque explicite, là, c'est que la politique, c'est l'affaire des minables, c'est l'affaire des faibles, c'est l'affaire de la plèbe qui s'entrégorge, qui s'entrétripe pour savoir qui va porter la couronne. Ça n'intéresse pas ces groupes-là. Ce qui intéresse ces groupes-là, c'est d'établir les règles du jeu qui feront que la personne qui porte la couronne n'aura pas le choix de se conformer à un certain nombre de principes, un certain programme, quoi. Et c'est ça, c'est là où on parle de géopolitique. Et on va avoir, dans ce cadre-là, deux approches quant à la loi. Il y a la loi au sens de la législation des États, les parlements qui votent des lois. Il y a une autre loi qui est transcendante, qui est celle des multinationales et de l'oligarchie, qui est une loi au sens naturel, là, comme on parle de la loi de la gravité, une loi naturelle traduite par la science qui se présente comme la loi du marché, la loi de la concurrence, la loi de l'offre et de la demande, la loi du...
mais qui ne cesse d'enfreindre. C'est ça le paradoxe.
Mais en fait, non, on ne l'enfreint pas. On la conditionne, cette loi. On la conditionne de façon à ce qu'elle nous favorise. Et on dira, c'est la loi, c'est pas nous, c'est pas notre volonté. C'est un ordre qui est presque cosmique, hein, qui est celui de l'économie qui repose autant sur une sorte d'anthropologie radicale. Et cette loi cosmique-là fait de nous des multimilliardaires, de la moitié de l'humanité, des indigents. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est bien composé avec cette loi-là en essayant de voir comment on peut évoluer à l'intérieur de ces paramètres. Et c'est pour ça que je parle d'un totalitarisme pervers. Pourquoi? Parce que l'expression totalitarisme pose problème. Hein? Benjamin Barber, que j'ai cité, est un politologue américain de gauche, là, disons, pour aller vite, qui n'aime pas cette expression-là, néanmoins, même s'il est tenté de l'utiliser, puis il explique son problème, c'est qu'au fond, le totalitarisme devrait désigner seulement des régimes totalitaires de type hitlérien, par exemple. Et non toute forme de pouvoir puissant qui a pu par la suite apparaître dans l'histoire. Et je conteste cette lecture-là des choses, c'est que je pense que ce mot de totalitarisme peut être décliné de différentes façons selon l'adjectif qu'on lui appose. Et je pense que le totalitarisme qui a concerné, disons, Hitler, par exemple, est un totalitarisme de type psychotique, c'est-à-dire un totalitarisme qui est l'expression d'une manifestation de pouvoir extrême de la part d'un sujet autoritaire qui est hyper visible, tapageur, vociférant et furieux, et dont on ne peut pas douter de l'identité. Hein, je veux dire, et c'est pour ça qu'on a même essayé, notamment dans le cadre de l'opération Valkyrie, mais il y en a eu d'autres aussi, de décapiter le pouvoir hitlérien, parce qu'on se disait, si on tue Hitler, c'est l'architecture même du régime qui, à tout le moins, vacille, voire s'effondre, quoi. Aujourd'hui, je veux dire, le PDG de Total peut mourir sur une piste de décollage en 2014 à Moscou, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que ce totalitarisme-là, qui vient de l'appellation même de Total, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui se présentent comme ça. Bon, ils se présentent comme des défendants la totalité, quoi, bon, de leur pouvoir, de leur influence, de l'exercice de leur puissance. Ce totalitarisme, aujourd'hui, est d'une autre nature, quoi. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour naturel. Il se présente comme étant conforme à l'ordre même des choses. C'est comme si, au fond, ce pouvoir-là, et ça finit par être vrai, s'exerçait de par lui-même, de par même la conformité des agents aux règles auxquelles ils sont subordonnés. Au fond, un pervers... C'est un psychotique déguisé en névrosé, quoi. C'est un psychotique qui, en fait, est capable d'articuler ce qu'il en est des règles, qui est capable d'influencer le cours des choses de façon à façonner des dynamiques, une culture économique mondiale, des structures comme les mécanismes de règlement de différends entre multinationales et États, des traités de libre-échange, un lobbying complètement exacerbé tant à Washington qu'à Bruxelles que dans les capitales des grands des pays qui peuvent encore avoir une influence sur l'organisation des règles du jeu, mais sur un mode tel qu'on finit par donner au tout une allure d'objectivité et à dire ben, « c'est la loi, c'est pas nous qui l'avons votée, nous n'y sommes pour rien, nous nous conformons à cet ordre-là est simplement en phase avec la nature des choses, et si vous n'êtes pas content, eh ben, vous avez qu'à vous extraire de cet univers-là, mais ça sera à vos dépens, et si vous permettez, je vais juste finir là-dessus, je cite souvent cette citation, mais elle est en or. C'est Patrick Pouyanné qui, en 2014, dit ceci. « C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. » Bon, vous l'excuserez, son vocabulaire n'est pas très développé. « Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. » Ça, il veut dire l'axe gauche-droite. Bon, il dit, mais in fine, ce n'est plus ça maintenant, c'est fini ce temps-là, c'est fini le temps où on délibérait sur la pertinence du capitalisme, c'est fini l'époque où il y avait une gauche et une droite, des aspirations socialistes versus des aspirations libérales, c'est fini, c'est liquidé. Hein? Aujourd'hui, hein, nous vivons tous dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Ceux qui ne veulent pas jouer le jeu hein, vont simplement perdre. Et quand il a commenté l'élection du nouveau président en France, là, un banquier dirigeant, ce qu'il a appelé lui-même une entreprise politique, il a, dans les termes du management américain, Patrick Pouyanné a dit « Mais c'est très bien l'élection de ce jeune président parce qu'on a rompu avec un certain axe politique au profit d'un autre. Avant, c'était l'axe gauche-droite. Et puis maintenant, on est dans un axe fermeture-ouverture. C'est-à-dire, ou bien on est pour cette mondialisation ultralibérale que promeut Total, ou bien on est raciste. Bon, en gros, c'est Front National ou Macron. Et le côté justement sophistique de cet argumentaire, c'est qu'on oppose des points de vue qui se situent sur deux régimes différents. Quant à deux débats différents, c'est comme si on disait à quelqu'un, je vais être prosaïque, mais c'est comme si on disait à quelqu'un, est-ce que tu aimes une maison à la campagne ou un pamplemousse, quoi? C'est-à-dire qu'on est en train d'opposer des choses qui relèvent de catégories différentes, quoi. Et donc on a créé un faux débat qui nuit, vandalise le corpus de référence valant au titre du débat public.
Donc là, on est rentré vraiment dans la discussion plus philosophique. Alors, ma question, c'est quand même, en quoi ce que vous dites là est très différent de ce qu'avait pu dire Marx à l'époque hein, et quelques décennies plus tard, de ce qu'avaient pu dire les philosophes de l'école de Francfort, notamment Marcus, que vous citez hein, dans L'homme unidimensionnel. Il disait, au fond, voilà, la rationalité instrumentale du capitalisme a débordé la sphère même de l'économie. Elle a sous son emprise la totalité de la... du façonnage de la réalité du monde, y compris les représentations culturelles, etc. Et au fond, il n'y a plus aucun espace, hein, interstice, qui n'échappe à cette emprise totale du capitalisme. Donc, au fond, en quoi ce que vous dites est très différent de ce que disent les critiques du capitalisme comme totalité, hein, même depuis Max Weber, hein, depuis qu'il a montré qu'il y avait cette rationalité instrumentale quasi autoporteuse, qui désignait comme le terme de la cage d'acier, qui allait finir par enfermer l'humanité dans cette rationalité froide. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la manière dont vous formulez les choses?
Mais je dirais que je m'inscris dans ce courant-là, très, très clairement. Et je pense que ces références-là sont indispensables aujourd'hui pour suivre un déroulement, une évolution. Cependant, on se retrouve face à des entités qui évoluent sur une échelle inédite. Il y avait, à l'époque de Marx, aucune entreprise capable de peser à la fois dans 130 pays. Est capable de créer même, par exemple, un droit des affaires qui est indépendant de nos traditions juridiques, romaines ou autres. Là. Je veux dire, on a ces mécanismes de règlement différents, par exemple.
On le voit avec les traités internationaux, là, où il était possible, ça n'a pas été ratifié, mais il était possible qu'une entreprise, en fait, attaque un État au prétexte son droit, en fait,
mais aujourd'hui, il y a des milliers d'accords bilatéraux et des accords de libre-échange, comme celui de l'ALENA, par exemple, son fameux article 11, qui permettent déjà cela. Et Total, par exemple, a poursuivi le gouvernement argentin devant ses mécanismes de règlement de différends parce que le gouvernement argentin a, en quelque sorte, entravé la libre cours du commerce la décennie 1990, quand une terrible crise financière a frappé tout le pays. Et il aurait fallu que le gouvernement argentin, en quelque sorte, réagisse à cette situation d'exception. Quant à tous les acteurs sociaux, sauf les multinationales, parce qu'elles elles sont comme dans un univers éthéré, et rien ne saurait altérer les termes des contrats qu'elles ont signés, même une crise comme celle-là. Donc on a poursuivi le gouvernement argentin dans un contexte légal extrêmement opaque. Hein, ces mécanismes de règlement différents se produisent à huis clos. Il n'y a pas de mécanisme d'appel. Et il y a une poignée d'à peu près 15 juristes qui jouent tour à tour tous les rôles. Un jour, on est arbitre. Le lendemain, dans une autre cause, on est l'avocat d'une partie. Le surlendemain, on est convoqué comme expert dans un troisième dossier. Je veux dire, il y a quelque chose d'absolument ubuesque qui se joue. Et ce droit-là est l'œuvre des multinationales et dans les facultés de droit plutôt que de se dresser contre cette parodie de justice, non, qui fait subir des entorses aux principes élémentaires là, qui a pu être développé dans l'histoire là, sur la procédure, on essaie d'intégrer la chose parce que sans doute qu'il y a du pouvoir à y trouver. Quoi. Donc ça, c'est un exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'échelle sur laquelle se déploie cette logique, au point où ces puissances dont on parlait tout à l'heure, là, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, au début du 20e siècle, quand il s'agissait de sécuriser des investissements pour pouvoir être approvisionné, ainsi de suite, ces puissances-là, aujourd'hui, ressemblent de plus en plus aux enveloppes juridiques qu'elles ont façonnées au profit de ces cartels. Donc aujourd'hui, vous avez un État comme la France qui, en tant que législation, a établi un rapport assez pathétique avec Total, où on est en train de quémander pour que Total finance la restauration de telle œuvre au Louvre ou la restauration de tel immeuble patrimonial dans le sud de la France ou en Bretagne sur un mode gênant. Vous avez par exemple le dernier président de la République, hein, qui est François Hollande, qui a trouvé comme activité pour occuper ses jours de retraite de gérer, administrer, représenter une organisation publique-privée qui s'appelle La France s'engage pour favoriser l'entrepreneuriat social chez les jeunes et l'innovation sociale. Et cette structure-là est cofinancée par le ministère de la Jeunesse et par Total. Et donc, vous avez un État Total qui est assimilé à une structure qui excède complètement en même temps les frontières de la République et qui subsume sous son autorité toutes sortes de structures. Et je pourrais parler, puisque vous aurez deviné que j'en viens, au Québec, de l'École polytechnique, qui aujourd'hui a pour directeur général un ancien de Total. Et au Sénégal, je pourrais parler d'une autre structure destinée, si je ne m'abuse, à la recherche, qui va subir le même sort. Et on a cette puissance, quand on ne parle pas de la façon dont les Desmarais, qui ont été la famille Desmarais très influente, qui a eu un siège au conseil d'administration de Total, comment elle est en lien avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui investit davantage dans les infrastructures liées au sable bitumineux en Alberta que dans la législation où elle est censée soutenir les acteurs économiques. Donc, on est face à un pouvoir qui mérite d'être, je vais vraiment finir là-dessus, qui mérite d'être abordé quant à une terminologie adaptée pour établir des diagnostics justes et aussi qui mérite de l'être dans un pays où on s'est habitué à associer de très très près la notion de pouvoir à celle d'État. Et on a, il suffit de lire les journaux, on fétichise beaucoup, je dirais, les autorités publiques comme si on était encore sous l'autorité de De Gaulle, par exemple, alors qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont là pour faire de la com. Quoi. Bon.
Bien, merci. Je pense qu'on peut finir là. En vous remerciant beaucoup pour cette intervention.